Je veux pas vous parler de la pandémie, les amis, mais je veux vous parler de quoi qui a peut-être changé un peu avec la pandémie, mais on va parler d'autre chose. Avant, là, quand on voyait arriver des nouvelles, genre de ce qu'on va vous parler, là, inquiétante un peu, en général, souvent, on faisait « ça arrivera pas ». Oui, non, ça arrivera pas. Puis là, dans la converse, Jean-Simon a envoyé d'une patente, puis j'ai décidé au début, là, j'ai dit « oh non, on parlera pas de ça », mais j'ai quand même décidé de lire l'article, ça m'a fait peur un peu, et je me suis questionné, je dis « pourquoi? » Mais c'est à cause de la pandémie. Tu sais, voilà un an, on n'y aurait pas cru à la pandémie et on l'a vécu. On va gagner en passant, ça va bien, là. Mais voilà un an, si je vous avais dit que le monde allait connaître cette pandémie-là, qu'est-ce que vous auriez dit?
Moi,
impossible. Quand j'ai vu passer sur la converse le texte que Jean-Simon nous a relayé à la gang, là, ça se peut qu'il y ait un astéroïde qui frôle la Terre, mais en tout cas, un astéroïde dont normalement on en aurait parlé 30 secondes. Parce qu'on ne croit pas à ça. Avouez, on n'y croit pas, même s'il y a une possibilité. Mais là, à cause de la pandémie, il y a une petite voix en moi qui, comme dit, écoute, la pandémie, on y croyait pas être arrivé. Un astéroïde, de toute façon, c'est déjà arrivé sur la Terre, là. Comme les pandémies ont déjà arrivé, il semble que c'est ce qui a mis fin aux dinosaures, des théories.
Non, c'est prouvé maintenant, c'est réellement l'astéroïde.
Sûr
à 100%. Ouais, pendant très longtemps, ça a été une des théories, puis il y en avait plusieurs autres. Mais depuis le début des années 2000, on sait que c'est réellement cet astéroïde qui s'est écrasé à peu près à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et qui a mis fin à des millions d'années de domination de reptiles. Le géant, mais qui a donné la chance aux petits mammifères de devenir des êtres humains un jour.
Non, mais je sais que l'astéroïde est prouvé, mais que ça a mis fin aux dinosaures, c'était ça qui était...
C'est le cataclysme qui a créé la réaction en chaîne qui a mis fin aux dinosaures. Oui.
Donc c'est de quoi qui est déjà arrivé et qui peut encore arriver. Avouez que dans le passé, c'est pas la première fois qu'il y a des nouvelles là, sur des astéroïdes qui menacent la Terre. Avouez que dans le fond, nous, on y croit pas. C'est sûr que ça arrivera pas. Je vous dis pas que ça va arriver, je vais pas vous faire peur. Je pense encore que non, mais... Bref, je trouve ça plus intéressant, ces histoires-là. Alors, raconte-nous, Jean-Simon, donc, ce scénario qui est loin d'être apocalyptique, mais qui peut nous faire peur un peu.
Oui, ça va se passer samedi, donc il vous reste 2 jours à vivre, profitez-en. Alors, samedi, la NASA vous sauvez, oui, effectivement, Jean.
On s'en va où?
je sais pas, là,
Mars. Un bunker quelconque?
Mars, c'est cute, c'est des beaux paysages. la NASA surveille, il faut le savoir, des milliers d'objets qui se promènent pas trop loin de la Terre, qu'on appelle des NEO, des Near Earth Objects, donc des objets proches de la Terre. Et parmi ces milliers d'objets, il y a un sympathique astéroïde qui s'appelle le 163348. C'est le nom qu'on lui a donné. C'est moins beau qu'Ulysse pour notre baleine. Honnêtement, il aurait pu se forcer un petit peu, là, mais c'est un astéroïde gigantesque qui est de la taille combinée de l'Empire State Building et de l'œil de Londres, le gratte-ciel bien connu de Londres. Donc, c'est à peu près 2000 pieds de haut au total ou de long, là, dépendamment de la section.
T'as-tu une idée? Parce qu'on en parlait tantôt, là, je sais pas grave si tu l'as pas, mais celui qui a mis fin au dinosaure était gros comme quoi?
Je peux trouver ça probablement en 2 secondes sur Google.
Sur Google ou à Marie-France. Peut-être pendant que je veux que tu continues à me parler de l'Empire State Building qui est peut-être sur le bord de nous heurter. Mais pour avoir une comparaison, il faudrait peut-être savoir, lui, qui a mis fin au dinosaure, était gros comme quoi?
Le cratère est de 177 kilomètres, donc ça vous donne une idée.
C'est pas pareil pour tout.
Non, c'est pas tout à fait ça, mais ce serait en fait, la météorite exacte, parce que c'est 177 kilomètres le cratère, mais la météorite était quand même de 14 kilomètres de diamètre. Donc, c'est beaucoup plus gros. Là, c'est moins d'un kilomètre de long, ce qui est quand même assez gros. Ça serait des dommages épouvantables.
Je suis pas en train de dire, mais ça donne quand même, tu vois, une bonne idée des proportions. Ce qui a heurté à l'époque des dinosaures, c'était majeur.
Oui, absolument.
Celui-là, donc, il va passer proche.
Oui, il se dirige à toute vitesse vers la Terre. Devrait passer tout près de la Terre, à l'échelle spatiale, bien sûr. Et là, c'est là qu'il faut mettre un bémol, parce que quand on parle de Near Earth Object, c'est pas comme si je vous disais qu'un cycliste est passé près de moi pendant que je courais sur la piste cyclable. C'est un peu différent la façon qu'on mesure les distances. Alors, il va passer à peu près à 5,1 millions de kilomètres de la Terre, ce qui, à l'échelle du cosmos, est très petit. Alors, suffisamment pour dire que l'astéroïde va passer très, très près de la Terre. Mais vous comprenez qu'à moins d'une erreur de calcul ou d'une bad luck monumentale, on devrait éviter l'astéroïde qui va quand même nous frôler, en tout cas cosmologiquement parlant.
Et s'il nous heurtait? OK. Donc, je comprends qu'on surveille, mais c'est pas supposé. Mais ça arrive souvent à des manchettes comme ça. As-tu une idée, compte tenu de la grosseur, qu'est-ce que ça ferait comme dommage?
Si un astéroïde se plantait sur la Terre, j'en ai lu plusieurs articles là-dessus. Si un astéroïde percute à la Terre, je le retrouve.
Mais attends, parce que ça dépend de la Terre, on l'a bien vu. C'est pas pareil, évidemment. Puis ça dépend aussi, j'imagine, où.
Oui, exactement.
S'il tombe en plein milieu de l'océan Pacifique, c'est pas comme s'il tombe dans une zone habitée, là.
Bon, alors, une simulation a déjà été faite, vois, en 2019 par un collectif de chercheurs américains et européens. Puis ils ont pris un astéroïde de 300 mètres, OK? Alors là, c'est un astéroïde qui est encore... c'est 2000 pieds, donc c'est à peu près le double, grosso modo, de ce qu'ils ont calculé. Donc 300 mètres de diamètre. Et ça donnerait quoi? On dit que les chances d'un impact, d'abord, c'était très, très peu élevé, ouais. Mais que s'il y arrivait, ce serait l'équivalent de plusieurs explosions atomiques en même temps, avec des conséquences catastrophiques sur le climat, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre également. Et qu'est-ce qu'on ferait si réellement il y avait un astéroïde assez gros qui se dirigeait vers la Terre pour vrai?
Ah, on sait ça! Ah oui, on le sait, voyons. On envoie Bruce Willis.
Oui, absolument.
Avec Ben Affleck.
Oui, puis évidemment, on met la toune de Daryl Smith.
Dans mon ami Sophie. Oui. Ça prend Liv Tyler aussi.
Oui, Liv Tyler doit être là.
Steven Tyler, elle a joué un rôle là-dedans
oui,
aussi. Là,
absolument.
Si jamais il y a un astéroïde, on a besoin d'elle.
On a besoin d'Arwen dans la mission spatiale. Parce que je
fais des jokes parce que c'est un film en passant. Il reste qu'Hollywood a déjà envisagé ça. À l'époque, il envoyait carrément une bombe nucléaire pour faire sauter l'astéroïde. Je pense que c'est ça qu'il faisait. Ben, peut-être pas une bombe nucléaire, mais...
Oui, ben, c'est une des options. C'est une des options. Oui, c'est ça. Sauf que dans le film, en passant, parenthèse, bizarrement, au lieu de prendre des astronautes, ils ont pris du monde qui n'avait aucune compétence en astronaute.
Non, mais t'as pas, c'était des experts en creusage de tunnels.
Oui, c'est ça.
Mais ça a marché.
Arrête
de remettre ça en question, ça a marché.
En tout cas, regarde, je ne veux pas briser vos rêves. C'était un film très réaliste. Donc, les puissances spatiales européennes, dans le fond, ce qu'ils utiliseraient, c'est des impacteurs cinétiques, des sondes qui serviraient à percuter l'astéroïde pour modifier sa trajectoire. Et puis, dans l'expérience, ce ne serait pas à 100% fonctionnel. Sauf que, après ça, Washington utiliserait la bombe nucléaire pour protéger les villes en essayant d'envoyer une bombe nucléaire sur l'astéroïde restant parce qu'on réussirait à le diminuer. Donc, on essaierait de fragmenter l'astéroïde pour que le morceau soit moins gros. Mais après ça, on finirait ça avec une bonne petite bombe nucléaire là, pour essayer de...
Un bon cocktail.
Donc, il enverrait un missile nucléaire sur l'astéroïde pour le fractionner.
L'énergie de l'explosion dépasserait... Je suis toujours sur le site de l'article dans Sputnik News. L'énergie de l'explosion dépasserait 1000 fois l'énergie de la bombe atomique lancée sur Hiroshima, détruirait tout dans un rayon de 15 km, anéantissant complètement Manhattan. Ça, c'est dans le cas où ça tomberait à New York. Aucun être vivant ne survivrait sur une superficie de presque 83 km². Toutes les fenêtres seraient brisées dans un rayon de 45 km, alors que des destructions seraient observées même à 68 km de l'épicentre. Heureusement, c'est la seule catastrophe naturelle qu'on dit qui pourrait être empêchée en raison des technologies, notamment des télescopes qui pourraient les voir à l'avance et évidemment la présence de Bruce Willis sur Terre.
Là, moi, je vous dis de quoi?
Vas-y.
Moi, ce film-là, j'ai aimé ça.
Ben oui, moi aussi. Ben oui.
Hey, on s'entend, là. C'est pas un film Oscar pantoute. Mais moi, j'ai trouvé que c'était du très bon divertissement. C'est exagéré. Moi, c'est ce que j'appelle des fois. Ça, c'est du Hollywood popcorn, là.
Ouais, c'est sûr.
Correct, là. Tu sais, t'es pas toujours obligé.
Les films catastrophes, c'est le fun.
Des grandes réflexions, des fois. Des fois, c'est le fun. Mais d'autres fois, ce film-là, on voit venir la fin un petit peu, là. Je veux pas vendre le punch, mais tu sais, le sacrifice, tout ça. On voit quasiment venir depuis le début. Y a pas de grosses surprises. Mais ça s'écoute bien, c'est le titre déjà, tu l'as dit.
Armageddon.
C'est Armageddon.
Ben absolument. Oui. Évidemment, la chanson, c'est I Don't Wanna Miss a Thing, Daryl Smith, qui est une, à mon avis, des meilleures ballades de rock de tous les temps. Et habituellement, quand je suis DJ dans un mariage, je finis pas mal la soirée avec ça. Et les couples se rapprochent.
C'est une très bonne tune.
Oui, oui, oui.
Absolument. Absolument.
Oui, c'est très,
alors,
très bon.
Ayez pas peur, là. L'Empire State Building nous tombera pas dessus en passant, là. Il va juste se frôler. Mais je trouve ça fascinant que des gens dans le monde travaillent là-dessus.
Oui,
c'est ce que tu nous as parlé. Ils font des scénarios, là. Il y a quelqu'un, sa job, lui, à l'Agence européenne ou à la NASA ou tout, là. C'est qu'est-ce qu'on fait si un astéroïde s'approche de la Terre? Parce que les conséquences seraient tellement grave.
Mais c'est parce qu'il y en a des millions d'astéroïdes. Il faut penser que... Parce que la façon que le système solaire est fait, vous avez le Soleil, vous avez Mercure, Vénus, Terre, Mars, et entre Mars et Jupiter, vous avez la ceinture d'astéroïdes, qui est une espèce de zone dans l'espace qui, avec des millions et des millions d'astéroïdes de différentes tailles, certains gigantesques, certains petits. Et un des hasards incroyables de notre vie sur Terre, parce qu'il y a des successions de hasards pas croyables, c'est le fait qu'il y ait une planète suffisamment grosse avec un centre gravitationnel suffisamment important, Jupiter, pour tenir à distance les astéroïdes pour pas qu'ils se pitchent sur la Terre. Parce que s'il n'y avait pas la présence de Jupiter et aussi la bonne distance avec le Soleil, ben on aurait une pluie d'astéroïdes et de comètes et de toutes sortes de cochonneries spatiales qui nous tomberaient dessus sans arrêt.
Mais ça, c'est l'argument que certains scientifiques, les jumeaux russes dont j'oublie le nom, là, mais en tout cas, ils ont écrit un tas de livres qui recensent cette affaire-là. Mm. C'est l'argument que certains expliquent Dieu ou que le sens de la vie avec ça, dans le sens que l'univers est une genre d'horloge tellement précise et que la vie, il y a tellement... C'est quasiment incroyable que la vie soit apparue sur Terre puis qu'on puisse que ça prend une force extérieure, ça prend un dieu, ça prend un architecte, ça prend un horloger. Certains disent, regarde... Quand tu regardes une montre, là, ça peut pas être le fruit d'un hasard. Si tu ouvres à l'intérieur le mécanisme, c'est tellement poussé. Mais l'univers, c'est un milliard fois mieux que ça. C'est sûr qu'il y a un horloger à quelque part. C'est pas le hasard qui a donné ça. Notamment les planètes, tu l'as bien expliqué. Effectivement, tu changerais juste, là. Il y a certaines données, là, tu ferais juste changer une petite donnée infinitésimale, puis il n'y a pas de vie sur Terre, là.
Absolument.
Puis l'exemple des astéroïdes, c'est bon.
Puis c'est fascinant, parce que les deux visions, il y a deux visions qui s'affrontent totalement, puis c'est drôle parce que.
Bogdanov, c'est ça, Bogdanov?
Oui,
Bogdanov,
ça, c'est les jumeaux, effectivement.
Les jumeaux, Bogdanov, c'est vraiment des grands scientifiques. En passant, ils ont des têtes tellement bizarres, on dirait des martiens, là. Puis je suis pas méchant, là. Ils ont une maladie, là. Il y a vraiment des têtes bizarres, mais eux, ils ont écrit un tas de livres. Puis la conclusion, par contre, c'est très redondant. Là, c'est toujours pareil. Ça en vient à Dieu existe parce que l'univers est merveilleux. Là. Bon. Mais ils l'expliquent avec des données intéressantes.
Oui, absolument. Puis c'est fascinant comment il y a deux thèses. Les deux thèses s'affrontent présentement chez les scientifiques. J'ai peut-être deux TED Talks parce que tu peux avoir l'application TED Talks sur ta TV. Puis t'as des chaînes. Puis l'une des chaînes, c'était bon, y a-t-il de la vie dans l'univers? Puis successivement, j'en ai écouté deux. Il y en a un qui disait que d'ici 12 ans, on trouverait une preuve de la vie intelligente dans l'univers. Puis l'autre après disait, on est probablement tout seul dans le cosmos. Puis t'as deux scientifiques, bardés de diplômes, avec d'excellents arguments. Les deux m'ont convaincu. Fait que je le sais pas du tout, là. Mais les deux, je les écoutais, puis ça fait vraiment du sens. Un qui disait, à l'échelle du cosmos, il y a tellement de planètes que même avec tous les hasards, tout ça, c'est presque certain qu'il y a des civilisations probablement plus développées que nous, puis on va les voir bientôt. Puis un autre qui disait, au contraire, regardez le nombre de hasards, le nombre de coïncidences qui ont fait en sorte que la vie apparaît sur Terre, mais surtout puisse évoluer, parce que d'une part, la vie peut arriver, tu sais. Ça peut très bien qu'il y ait des organismes unicellulaires, des bactéries, des bébêtes un petit peu partout dans le cosmos. Mais pour qu'il y ait une civilisation qui soit rendue à notre niveau, ben d'abord, ça prend pas trop d'astéroïdes qui pulvérisent des dinosaures. Là. Nous, on a eu un. Là. On aurait pu en avoir un autre après. Là. Ou encore, l'astéroïde aurait pu ne pas tomber il y a 65 millions d'années au Crétacé. Les dinosaures auraient pu rester là. Puis là, ben la vie aurait évolué de façon complètement différente parce que ça a pris la disparition des dinosaures pour que les mammifères puissent pulluler, là, parce qu'il restait des petits rats qui ont réussi à survivre, puis eux sont devenus éventuellement des êtres humains. Sinon, on aurait peut-être des reptiles extrêmement intelligents, ce qui rejoint la théorie des reptiliens.
Oh, on est pas loin de Gertrude. On commence avec les astéroïdes et on finit toujours avec Gertrude.
C'est ça, Bouchard, rapport.
Good boy. On a quand même passé des jumeaux Bogdanov à la NASA, à l'Agence spatiale européenne.
Oui.
Et on finit avec Plastique Bertrand, mesdames, messieurs. C'est mieux de pas ça. Marie-France, est-ce que tu connais Plastique Bertrand?
Je découvre.
Tu connais pas Stop ou encore?
Ça, c'est sûr, tu connais Stop ou encore. Tout le monde connaît ça.
Même Push,
ça,
tu connais.
Stop ou encore, ça a été un de ses grands hits avec aussi... mais c'est le hit vraiment qui est resté un peu, Kéten, mais ça, c'est Ça plane pour moi.
Oui.
Ah.
Ça, je suis sûr que si on te faisait entendre
ça... Ça?
Ben oui!
Ça, c'est Plastique. Mais ça, c'est pas resté. Ça s'empoignait un peu.
J'ai 15 ans, qu'est-ce que je fais? Ça a
resté un peu.
Ça plane
c'est pas
pour
mauvais,
moi.
Ça.
Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ouh-ouh. Ça plane pour moi.
Il y avait aussi une toune sur Jean-Yves, Cousteau.
Ah oui?
Oui, il a fait une toune sur Cousteau aussi.
Mais lui, c'est éclectique vraiment... un peu, son style. Hein, c'est...
Mais ça a pogné Plastique Bertrand, mais genre 1981, mais encore plus précis, c'est genre entre janvier puis avril. Pas plus que ça, là. Après ça, ça a été fini. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais il a eu Cousteau? Le temps de faire 3-4 hits. Ouais, ça, c'est Cousteau, je pense.
Je le connais pas, tu vois.
Ah, écoute ça. Avez-vous l'impression que c'est tout le temps la même toune? C'est ça. Lui, il a comme poigné pendant 7 mois, gros max.
Jeune marié, pour lui c'est le moment de les photographier. Ça s'appelle Jacques.